9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Privet Druzia, Maître Serral est
heureux de vous. Maître Serral, vous avez été censuré.
Ben oui, je sais bien.
Tiens, vous n'ont pas ouvert les micros.
Mais je vais expliquer pourquoi. Donc on recommence, c'est bon
ou... Oui, parce que la phrase russe est importante.
Bah oui. Donc toute la semaine, j'ai appris cette phrase. Donc je disais Privet Druzia. Maître Serral est heureux de vous accueillir pour cette 8e émission de l'année 2022. Vous aurez remarqué, mon cher Philippe, que j'ai commencé par dire Privet Druzia. Ça veut juste dire bonjour mes amis en russe. Normal, compte tenu de ce qui s'est passé hier, je me suis dit qu'il n'est peut-être pas inutile de se mettre à apprendre le russe. Donc il l'a fait. Faut croire que Poutine n'a peur de rien et encore moins de l'Europe. Mais tentons de comprendre le pourquoi de cette situation. Petit cours accéléré de relations internationales. L'Ukraine souhaitait intégrer l'OTAN. Bon, tu me diras pourquoi pas. Sauf que les Européens s'étaient engagés à ce que ce pays ne soit jamais membre de l'OTAN, qui est une alliance politique et militaire, ce qui aurait permis, en cas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, aux États-Unis, d'installer, par exemple, des missiles aux portes de la Russie. Alors oui, je peux comprendre l'énervement de Poutine, bordel. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé à Cuba en 62. Les Soviétiques avaient installé des rampes de missiles à Cuba. Ils devaient acheminer les 10 missiles, pointer directement sur les États-Unis. Je vous le donne en mille. Les États-Unis s'y sont opposés. Normal. Alors pourquoi les Russes devraient accepter un tel scénario? Résultat, c'est la blitzkrieg, la guerre éclair. Bon, l'une des conséquences de tout ça, c'est que le litre d'essence va passer à minima à 2 euros, le prix du gaz va flamber. Alors je sais que vous en foutez de la flambée du prix de l'essence, mon cher Philippe, hein, vous êtes un adepte du vélo, mais vous aurez quand même besoin de vous chauffer. Évidemment, je n'oublie pas les victimes directes d'un tel conflit, c'est toujours le petit qui souffre. Mais soyons un peu plus légers encore que la semaine dernière, alors que j'allais officier en direct, j'apprenais que l'une des pointures de cette radio allait devenir cinquantenaire. Eh oui, Kim a 50 ans. Bienvenue, mon ami, dans le club des cinquantenaires. Faut faire attention, car cette radio va bientôt devenir Radio Nostalgie ou Radio Chebané. 50 ans, l'ami. Alors, 50 ans, ça signifie quoi? Ça signifie recevoir tous les ans un petit courrier de la Sécu qui te rappelle que tu es à un âge où, pour ta santé, tu as intérêt à te faire ausculter le trou de balle pour voir si
là,
tout va bien.
C'est la
CQQ. C'est la CQQ, c'est exactement
si
ça.
Vous pouvez vous permettre,
c'est la réalité. Mm-hmm. Eh oui, 50 ans, ça signifie qu'il nous reste a priori moins de temps à vivre que ce qu'on a déjà vécu. 50 ans, c'est se réveiller le matin avec quelques courbatures que tu ne sentais pas la veille de tes 50 ans. La veille, tu pouvais, dès le matin, faire un saut périlleux pour sortir de ton lit. Aujourd'hui, tu sens bien qu'il serait périlleux de faire le moindre saut. 50 ans, c'est faire ton jogging beaucoup moins vite et surtout beaucoup moins longtemps. Je sais de quoi je parle, hein. Je cours depuis très longtemps avec mes enfants. Au début, je me la racontais et je pouvais même les larguer. Aujourd'hui, il m'arrive souvent de prendre mon téléphone pour leur demander de ralentir la course. 50 ans, c'est voir avec des lunettes, évidemment. Évidemment, tes cheveux se sauver, sauf pour Kim, qui a vu ses cheveux désertés il y a bien longtemps, et voir des cheveux pousser à des endroits improbables, au niveau de tes oreilles, par exemple. 50 ans, ça peut être voir ton sgeg parfois fléchir.
Oh non.
50 ans, c'est voir dans les yeux des femmes que tu n'es plus aussi séduisant qu'il y a quelques années. C'est ce qui explique que souvent, à 50 ans, les hommes finissent par se remarier avec une demoiselle beaucoup plus jeune au bled, quitte à être ridicule. Les pauvres cinquantenaires, ils pensent qu'ils sont séduisants alors qu'on sait tous que si une jeunette te fait de la gringue, c'est pour mille et une raisons, mais surtout pas pour ton physique, mon vieux. Voilà, mon cher Kim, dans quel monde tu viens d'atterrir, et le club présidé par Monsieur Philippe Robichon te remet officiellement la carte de membre. Bon, allez, laissons ces histoires de vieux combattants pour répondre à vos questions au 01 53 48 3000. Émission sous le contrôle du plus chébané d'entre nous, Monsieur Philippe Robichon. À vous, mon vieux.
Enfin, moi, je vous ai rien fait, maître. C'est
non, mais
vous m'incluez dans toutes vos histoires. Ben,
vous êtes bien le président du club.
Pas du tout. Je suis président, rien du tout.
Du maître club des Chebanais.
Ouais, maître Serran. C'est vrai que c'était l'anniversaire de Kim.
Ben hein, oui.
Deux événements internationaux. Cette
c'est
semaine,
exactement hein. Ça. Hein. C'est peut-être même à cause de son anniversaire qu'il s'est passé ce qui se passe. Ah,
on aurait dû inviter Poutine.
C'est vrai. Ouais,
il n'était pas invité. On aurait dû l'inviter. Bien, alors, maître Serran, vous faites sauter un mythe. Ce matin, le mandat de perquisition, eh bien, ça n'existe pas en France. Alors, d'où ça vient cette idée qu'il faudrait un mandat de perquisition pour venir aller perquisitionner chez les gens?
Alors ça, on l'entend très très souvent. C'est-à-dire que on a parfois des clients qui viennent vous voir, qui vous téléphonent, qui vous disent il y a une perquisition à mon domicile, et puis je comprends pas. J'aurais demandé le mandat de perquisition, et puis voilà, on leur a dit mais de quoi vous parlez? Il y a pas de mandat de perquisition. On voit ça dans les films américains. c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une série américaine où, quand un policier toque à la porte, le type dit « vous avez un mandat de perquisition », et puis, quand le policier n'a pas de mandat de perquisition... Eh ben le policier repart tout penaud et puis donc souvent on se dit ça doit fonctionner comme ça. Donc ça c'est un mythe, il n'y a pas de mandat de perquisition à l'américaine. Il faut savoir que lorsque des policiers arrivent chez vous, alors policiers ou gendarmes, lorsqu'ils arrivent chez vous pour perquisitionner, alors ça peut se faire sous plusieurs formes. C'est-à-dire que la perquisition d'abord elle peut avoir lieu. Alors peut-être expliquer c'est quoi la perquisition. C'est-à-dire que je vais rentrer dans votre domicile, donc dans un lieu privé, et c'est, dit-on, nécessaire pour l'enquête, pour essayer de mettre la main sur un certain nombre de preuves. Alors ça peut être des feuillets, des ordinateurs, des objets divers. Donc la perquisition, c'est ça. La perquisition peut se faire à la demande d'un juge d'instruction. Un juge d'instruction, il est saisi à partir du moment où il y a une enquête qui est ouverte. Et puis, dans le cadre de cette enquête, vous pouvez éventuellement être placé sur écoute. Et puis, le juge peut se dire qu'il serait peut-être intéressant, opportun, d'aller perquisitionner chez vous, puisqu'il se dit, en tout cas, d'après les informations du juge, il pourrait y avoir des éléments, entre guillemets, intéressants chez vous. Donc, moi, juge d'instruction, je vais inviter les policiers, je vais inviter... les gendarmes à aller perquisitionner chez X ou chez Y. Alors, même chose, c'est-à-dire que souvent on entend dire mais ils ont forcé la porte. Alors oui, je suis un policier, je suis un gendarme, je vais dans un premier temps éventuellement toquer, sonner, voir ce qui se passe. À partir du moment où il y a un refus d'ouvrir ou à partir du moment où on considère qu'il y a personne, bien sûr que je peux dans ce cadre-là éventuellement forcer la porte. Et si vous n'êtes pas présent pour assister à la perquisition, ce qui peut arriver, il faut savoir qu'on peut, il y a une sorte de parade juridique, c'est-à-dire que j'ai quand même le droit de procéder à cette perquisition en demandant l'assistance, en tout cas la présence de deux témoins. Alors ça peut être vos voisins, peu importe, deux personnes qui passent dans la rue. Je peux moi les entre guillemets les réquisitionner, leur demander d'assister à cette perquisition. Alors c'est obligatoire, c'est-à-dire que vous êtes tout près, mon cher Philippe, et puis je vous demande d'intervenir et vous refusez, vous savez que vous pouvez avoir une amende. Donc il vaut mieux assister à cette perquisition. Donc il faut au moins deux témoins. Donc la présence du premier concerné n'est pas indispensable en la matière. Autre type de perquisition, dans le cadre de ce qu'on appelle les enquêtes de flagrance. Alors l'enquête de flagrance, c'est quoi? J'ai un individu qui vient d'agresser une personne, qui prend la fuite, je suis policier, je suis ce type-là, je le vois rentrer à son domicile, je vais pas demander à un juge d'instruction de me donner une sorte d'autorisation pour aller perquisitionner, donc j'ai le droit de pénétrer dans les lieux immédiatement. Même cause, mêmes effets, c'est-à-dire que si l'intéressé, pour une raison lambda, ne souhaite pas participer, entre guillemets, à cette perquisition, veut pas m'ouvrir, on peut toujours forcer la porte. Si pour une raison X ou Y il prend la fuite, mais je souhaite quand même pénétrer dans les lieux et voir un peu ce qui se passe, je vais demander donc à deux personnes de témoigner. Donc, alors pourquoi? C'est pour éviter autant que faire se peut de se dire que le ou les policiers ou le ou les gendarmes auraient mis des objets dans les locaux et ensuite reproché la présence de ces objets. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de témoins. La perquisition ne peut pas se faire à tout moment de la journée. Il faut savoir qu'une perquisition...
Il y a des horaires.
Il y a des horaires à respecter, c'est tant mieux. Une perquisition ne peut pas commencer avant 6 heures du matin et elle doit s'arrêter à 21 heures. C'est, on va dire, dans le cas de perquisition lambda et classique, en matière de stupéfiants, en matière de terrorisme, il y a des exceptions. Ben, l'exception est simple, c'est qu'une perquisition peut se faire aussi de nuit, elle peut se faire à tout moment. Donc on peut comprendre qu'en fonction de la gravité de l'infraction, les règles de la perquisition peuvent évidemment évoluer pour permettre, mais ça on peut le comprendre, hein, pour permettre simplement le déroulé de l'enquête. Autre exception en matière de perquisition, il y a des professions. Et notamment les professions réglementées, les perquisitions par exemple dans des locaux d'avocats ne peuvent se faire qu'en présence d'un juge et pas d'un officier de police judiciaire, et de la présence du bâtonnier. Donc il faut que, puisque ce sont des professions réglementées, que le patron entre guillemets des avocats ou un délégué du patron des avocats, un délégué du bâtonnier, puisse assister à cette perquisition, et c'est fait directement par le magistrat. On ne délègue pas ça aux policiers, à un officier de police judiciaire. Même chose pour les huissiers, même chose pour les notaires, même chose pour les journalistes. Donc là, à ce moment-là, c'est encore une fois un magistrat qui doit assister à la perquisition. Donc on a certaines professions comme ça qui sont réglementées, qui sont entre guillemets protégées. Ça fait partie des exceptions. Et si par extraordinaire, une perquisition dans le cadre de ces professions réglementées devait se faire sans la présence du représentant de la profession, évidemment, il y aurait une nullité flagrante, c'est-à-dire que la perquisition peut évidemment être annulée. Donc ce sont des règles qui sont très précises, mais indépendamment des règles, souvent on nous dit quoi ? Ben on nous dit, alors oui, il y a une perquisition, mais tout a été retourné.
Tout a été retourné, ben voilà. Ils ont retourné l'appartement.
Eh oui. Non mais ça c'est vrai.
Et ils
c'est...
ont cassé la baignoire.
Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, et souvent, on me
ils
dit,
ont
ouais,
démonté
mais...
démonté la machine à laver.
Ah mais, comme dirait, on peut tout passer au crible, hein, donc il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire qu'on peut creuser les murs. Donc évidemment, et vous n'êtes pas indemnisé de cela. Hein,
ils ne sont pas tenus de remettre en l'état.
Non,
ça.
Non, c'est... Alors évidemment, comme dirait l'autre, idéalement, il faudrait une perquisition entre guillemets correcte, tranquille et autre. Mais bon, voilà, moi je peux pas en vouloir aux uns et aux autres. On travaille aussi dans l'urgence. Il y a des preuves qui peuvent éventuellement disparaître. Donc on fait en sorte d'aller vite. Et puis on prend pas forcément des gants pour faire tout ça. Il existe aussi, et ça arrive assez souvent, des perquisitions qui concernent un mineur, mais on va perquisitionner chez qui ? Ben on va perquisitionner chez les parents. Donc ça aussi c'est très traumatisant, alors que les parents soient de bonne ou de mauvaise foi, souvent on vous dit mais attendez, nous on n'y est pour rien, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mais voilà, encore une fois, c'est entre guillemets la règle, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par aller perquisitionner la chambre de l'enfant, et puis on peut éventuellement étendre cette perquisition. Ces perquisitions ne se font pas exclusivement au sein du domicile, c'est-à-dire que si vous avez une cave, si vous avez un local, si vous avez un bureau, la perquisition peut évidemment s'étendre dans le cadre de ces différents lieux, de ces différentes pièces. Donc c'est très traumatisant.
Mais pour être clair, est-ce qu'on peut perquisitionner si vous n'êtes pas là ? Par exemple, si vous avez un garage, ou si vous avez, vous louez un box.
Mais bien sûr, on peut, encore une fois, on fait en sorte, on va dire en règle générale, après c'est très pointu, mais en règle générale, on fait en sorte de demander à l'intéressé, au premier concerné, d'être présent, autant que faire se peut. À partir du moment où le premier concerné ne peut pas être présent à la perquisition, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va prendre deux témoins, deux types qui circulent dans le secteur, et puis on va leur demander d'assister à cette perquisition, pour éviter, je le redis, que demain on vienne indiquer, en tout cas, ou que le premier concerné dise non mais attendez, c'était pas dans mon box, c'était pas dans ma cave, ce sont le ou les policiers qui ont mis ça. Donc on a besoin de deux témoins pour attester des choses. Et puis les éléments qui sont saisis vont être placés sous scellé. Voilà, comme ça, il n'y a pas de difficulté. Et c'est à partir de là que l'enquête, entre guillemets, alors je vais dire, va débuter ou va continuer, donc en examinant tous ces scellés.
Alors, ce qui est parfois paradoxal, c'est que quand vous savez que vous êtes dans l'œil du cyclone ou que vous êtes sous les radars, vous savez que vous allez être perquisitionné. On se demande pourquoi les gens ne font pas disparaître les ordinateurs,
surprenant.
Les documents et qu'ils gardent tout au bureau,
mais,
en fait.
Mais vous avez raison. C'est-à-dire que, il peut y avoir.
Vous savez qu'un jour ils vont débarquer.
Bien sûr. Il peut y avoir, entre guillemets, voilà, l'effet de surprise. On se dit, bon. Mais, vous avez raison.
Si vous vous appelez François Fillon, enfin, je prends un exemple.
Bah, non,
comme
mais
ça,
c'est vrai.
Vous dites qu'un jour ils vont débarquer.
On se dit qu'au bout d'un moment, en plus, ils sont, j'allais dire, entre guillemets, de la partie. C'est-à-dire, ils savent en gros comment ça peut fonctionner. Donc c'est vrai que c'est très surprenant. quand on apprend parfois dans des affaires comme ça qui sont médiatisées, qu'il y a eu des perquisitions et puis on a découvert tel ou tel élément et vous voyez les types sortir avec des cartons de preuves.
Il y a pas une femme de ménage qui.
Ouais, mais c'est vrai que c'est
un nettoyeur.
Le cerveau manifestement est anesthésié tant que qu'on vient pas toquer à votre porte de manière plus ou moins sympa. Mais c'est une question qu'on se pose souvent entre guillemets. Les intéressés ne s'organisent pas. Alors je encore une fois, je sais pas comment ça peut s'expliquer. Mais quand vous êtes effectivement déjà chatouillé plus ou moins à distance, au bout d'un moment, vous allez bien vous dire qu'ils vont s'approcher. Et puis ça peut finir, et ça finit très souvent, par débarquer à la maison, au bureau.
Est-ce qu'il y a un moyen de s'opposer à une perquisition ?
Non, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de moyen, mais on peut le comprendre. On peut le comprendre et l'entendre. C'est-à-dire que vous imaginez bien que, c'est ce qu'on le disait. C'est-à-dire que si, je dis, mais attendez, vous n'avez pas ce papier, ce mandat de perquisition, je vais aller demander l'autorisation à un juge. Bon, le temps que vous allez demander l'autorisation à un juge, il peut se passer mille et une choses. La perquisition, c'est quoi? C'est d'abord, entre guillemets, l'effet de surprise. C'est pour éviter que ces preuves qui sont planquées dans une armoire, disparaissent. Et si je vous préviens ou si je vous dis bon ben là vous voulez pas mais je reviendrai demain ou après-demain, vous avez évidemment, mais c'est juste humain, toute la possibilité de faire disparaître le tout. Donc alors vous pouvez dire mais moi je m'y oppose. Bah si la question c'est est-ce que je peux m'y opposer, je veux dire, sur le principe en disant bah non je veux pas, oui pourquoi pas, mais ça ne changera rien, c'est-à-dire qu'on va vous écarter encore une fois vite fait et puis soit vous assistez à la perquisition, soit on fera appel donc à des individus lambda pour y assister entre guillemets en vos lieux et places.
Bien, alors vous pouvez appeler Maître Serran qui organise lui aussi des entreprises de nettoyage, hein, donc.
Oui, c'est vrai.
C'est que Nico est en vacances, mais...
Ouais, il est en vacances pour quelques temps, et il est en vacances, normalement, jusque fin avril.
Oui, donc à partir de fin avril, vous reprenez le grand nettoyage.
L'activité reprend.
Et si vous avez des questions juridiques à poser à Maître Serran, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et le vendredi, Maître Serran répond à vos questions, et c'est très simple, hein, si vous voulez l'interroger, vous composez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Alors par contre, je ne vois pas qui est là, voilà, Maître Serran, parce qu'il va falloir que je vois maintenant. Maître Serran, vous voyez qui, vous? Moi, je vois, que voulez-vous que je vois d'ici?
Faut, j'ai des lunettes, mais il faut que je m'approche.
Vous aussi, approchez-vous, là, alors Maître Serran. Ah, ça va être comme... Pardon,
Lily.
Ouais, ouais. Non, une demoiselle Lily. Non,
ça, mais on va pas y arriver. Il faudrait peut-être trouver un système. Alors, Lily.
Oui. Bonjour.
Bonjour, Lily.
Ça va.
Bon.
Alors, j'ai un gros souci, enfin plus ou moins. Voilà, je suis mariée avec mon conjoint de nationalité algérienne qui est rentré sur le territoire français illégalement depuis octobre 2020.
Alors, il est rentré légalement.
Non,
illégalement, d'accord.
Oui, sans visa.
Ah oui, c'est problématique.
Voilà. Donc, nous avons déposé le dossier de première demande de conjoint français en mars 2021, qui se soldait finalement par un refus avec OQTF. Mmh. On a fait un recours. On a eu le résultat du recours en octobre qui a été refusé, avec une assignation à résidence qui a été... depuis novembre, de 90 jours, renouvelable. Et maintenant, ça va faire en avril un an qu'il a eu l'OQTF. Donc, en principe, on pourrait redéposer un dossier. Mais ma question, est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut pas?
Non, alors, voilà, sur le principe, madame, évidemment, vous pouvez redéposer un dossier, mais on va être clair. Vous imaginez bien que... Les autorités préfectorales, à partir du moment où ils vous ont notifié une obligation de quitter le territoire, à partir du moment où cette obligation de quitter le territoire a été confirmée par le tribunal administratif, la probabilité que la préfecture change d'avis, elle est infinitésimale. C'est-à-dire qu'ils reprendront la même mesure, et à la différence que là, on accordera un délai de 48 heures pour quitter les lieux. Alors moi, ce qui me surprend, c'est ce que vous me dites, c'est-à-dire que... Alors vous êtes de quelle nationalité ?
Française.
Bon, alors, française. En règle générale, madame, quand on se marie avec une personne de nationalité française, de double nationalité, c'est quand même plus simple pour faire venir son conjoint. Ça prend du temps, mais ça reste quand même beaucoup plus simple. Monsieur, c'est compliqué la vie. en venant sur le territoire français ou sur le territoire européen sans le moindre visa. Donc on est d'accord, c'est-à-dire il a même pas un visa Schengen, ni espagnol, ni italien. Bon, eh ben c'est toute la difficulté.
Il est depuis 2012 sur le territoire français.
Mais sans visa.
Sans visa.
Voilà. Alors vous savez souvent le raisonnement étant de dire bon alors je suis arrivé sans visa il y a X temps et puis voilà maintenant je veux entre guillemets consolider ma situation et puis j'ai un projet de mariage donc je vais me marier et puis tout ça va passer sans difficulté sauf que cette obligation de visa elle pèse toujours seules les personnes qui ont ou auraient sollicité l'asile politique par exemple peuvent venir sur le territoire français sans visa. Vous voyez, il y a un danger, j'ai pas le temps d'aller auprès des autorités consulaires et de demander une autorisation pour venir en France. Ou j'ai pas le temps d'aller demander une autorisation à un consulat espagnol, italien, peu importe. Donc, en dehors de cette exception, donc de personnes qui ont demandé l'asile politique, toutes les autres personnes, madame, quand elles décident de venir sur le territoire français, en tout cas sur le territoire européen, doivent solliciter un visa. Donc, la difficulté, c'est qu'au moment où je vous parle, je vois pas d'option. Et d'ailleurs, l'avocat aurait dû, alors ça fait jamais plaisir hein, quand on est client d'entendre ça, mais aurait dû vous le dire, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient sans visa, ça c'est une grosse difficulté pour le régulariser. Donc idéalement, mais vous allez vite comprendre la limite de mon raisonnement, c'est que monsieur retourne au pays, en gros on repart à zéro et puis il demande un visa pour dire je veux venir rejoindre mon épouse, mais l'administration française n'est pas folle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, même s'il retourne au pays et il reprend entre guillemets la procédure à zéro, bah on va pas lui pardonner, c'est-à-dire qu'on va lui dire vous êtes gentil mais vous êtes en France depuis de 2012 et puis vous avez pas respecté les règles qui étaient imposées à l'époque. Donc c'est terrible ce que je vais vous dire mais il est blacklisté.
Oui.
Ouais, il est blacklisté et il y a pas de au moment où je vous parle, je vois pas d'option pour qu'il soit régularisé même si vous redéposez un dossier quand bien même vous auriez un enfant ensemble. Ben c'est ça la difficulté, c'est que vous et dans l'absolu l'enfant évidemment on va pas vous embêter, mais la situation de monsieur, il sera comme un fantôme sur le territoire français.
Actuellement en fait on avait démarré un parcours PMA et dans la région parisienne et comme il a eu l'assignation, bah tout était stoppé en fait.
Alors je vais vous dire quelque chose de particulier, je veux pas que ça vous froisse, mais vous savez, ça devient très compliqué. Alors déjà, quand vous êtes seul en situation irrégulière, c'est compliqué. Quand vous êtes en situation irrégulière, vous vous mariez, vous mettez quand même en difficulté le conjoint. Vous imaginez bien, madame, que avoir un enfant et que la situation de monsieur ne s'améliore pas auprès de l'administration, ça va finir par pourrir la vie. Donc moi je peux comprendre ce que vous êtes en train de dire, mais sachez que le fait d'avoir un enfant ne va pas faciliter la régularisation de monsieur. Alors je dis pas que vous allez faire un enfant pour qu'il soit régularisé, mais je vous le précise. Mmh. C'est-à-dire que l'administration sera insensible à ça, et ce d'autant plus d'abord qu'on lui a déjà demandé de quitter le territoire. C'est ce qui fait que il peut déposer une deuxième, une troisième, une dixième demande, sauf à ce que les lois demain changent. Mais au moment où je vous parle, les lois sont claires. Il est rentré sur le territoire français, quand bien même ça date de 2012, sans visa. Je vois pas comment il pourrait être régularisé. Vous savez, c'est
Le troisième mariage, non?
C'est non, mais quand bien même, c'est-à-dire que vous savez, c'est comme quelqu'un, madame, qui rentre chez vous. C'est-à-dire que si vous invitez quelqu'un chez vous, vous l'avez invité, il vient vous voir. Oui. Quelqu'un qui viendrait s'imposer, vous n'avez pas forcément envie de lui dire, écoute, viens te reposer, il y a une chambre pour toi. Vous l'avez pas invité. Et pour la France, c'est pareil. C'est-à-dire que je vous donne un visa, je vous autorise à venir.
Certains couples se paxent et au bout de 18 mois de commune, ils obtiennent la régularisation malgré sans visa.
Madame, ça c'est une légende urbaine. Moi, je l'entends tout le temps et ce que je réponds.
Enfin, même si c'est peut-être arrivé à un ou deux.
Ah non, mais c'est arrivé ni à un ni à deux. Il y a une condition, madame sine qua non. Mais bien sûr.
C'est jamais arrivé.
Mais bien sûr. Encore une fois, sauf les personnes qui bénéficient du statut d'asile politique. Voilà. Dans le cadre de l'asile politique, évidemment, on va pas vous demander d'aller demander un visa. Votre vie est en danger, vous partez. En dehors de ça, madame, moi, vous savez, quand j'ai des clients, j'entends des clients souvent me dire, mais je connais un tel, il avait pas de visa, il a été régularisé, et puis, en règle générale, ils ont été régularisés, d'après eux, encore plus rapidement que quelqu'un qui serait venu avec un visa. Bon. Et puis, voilà, au bout d'un an, au bout de 18 mois, il a son titre de séjour. Alors, c'est simple. Je lui dis, bah, dans ce cas-là, d'abord, demandez-lui, il est peut-être meilleur que l'avocat lambda, mais demandez-lui comment il a fait, et puis demandez-lui simplement peut-être son titre de séjour. Faut faire attention à ce qui se dit, madame, je vous assure. Je peux comprendre que ça puisse faire du bien d'entendre ça, mais je vous le redis, il n'y a pas plus difficile que d'obtenir la régularisation, pour ne pas dire impossible, que d'obtenir la régularisation de quelqu'un qui serait arrivé sur le territoire français sans visa. Un visa à minima européen, ça peut être un visa italien, espagnol, peu importe, mais quelqu'un qui dit j'ai zéro visa, mais pour la simple et bonne raison, je le redis, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays d'Europe qui l'a invité à venir en France. Ceux qui peuvent être régularisés, c'est je viens avec un visa, mon visa est expiré, vous savez, dans 90% des cas, c'est ce genre de dossier hein, que qu'ont les avocats, et le type ou l'intéressé, donc c'est maintenu sur le territoire. Donc là, oui, puisqu'un jour, la France ou un pays européen vous a autorisé à venir. Mais méfiez-vous des personnes qui vous disent « je suis rentré sans visa, je me suis marié, et au bout voilà de 18 mois, j'ai été régularisé ». C'est terrible à entendre, hein, mais franchement, faut le savoir. C'est pour ça, quand j'ai des personnes qui me disent « et si on fait un enfant ?», bah, je leur dis « ça risque d'être c'est terrible ce que je dis là, mais un poids supplémentaire, puisque voilà, un enfant a besoin de stabilité, sa mère aussi, et si le papa ne peut pas être régularisé aujourd'hui ou demain, ça pose difficulté.
» Donc voilà ce que Maître Serran vous répond, Lydie.
Mais par exemple, par rapport à l'assignation, en fait, il a eu une assignation de 90 jours renouvelable. Est-ce que c'est
non, mais l'assignation...
obligatoire qu'ils vont renouveler ou ils vont peut-être...
L'assignation, pour bien comprendre, c'est quoi ? En gros, c'est juste pour dire... Vous vous engagez à nous donner une adresse et puis on sait qu'on peut vous trouver à cette adresse-là. Mais à partir du moment où les autorités préfectorales considèrent que il y a entre guillemets une place qui peut se libérer et qu'on peut expulser l'intéressé, on va aller le chercher. Donc le fait d'avoir une assignation et de pas vous prendre tout de suite et vous mettre dans un avion, ça veut pas dire que bon bah peut-être que la France est en train de réfléchir. Ouais, c'est juste pour dire, vous restez là et vous bougez pas. Voilà, si demain, moi, autorité policière, je veux venir vous chercher, je sais que je vous trouverai à telle ou telle adresse. Mais ça veut dire que ça.
D'ailleurs, par exemple, par rapport à l'OQTF qui se termine en avril, si par exemple ils remettent une assignation 90 jours, est-ce que l'assignation est encore valable quand l'OQTF sera terminé?
Encore une fois, souvent je l'entends, c'est-à-dire qu'il faut savoir que l'OQTF, voilà, l'obligation de quitter le territoire, l'État a une année pour la mettre à exécution. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un an pour faire en sorte de prendre l'intéressé, de le mettre dans un avion et de tenter en tout cas de l'expulser. Au-delà de ça, souvent j'ai des personnes qui me disent ben le délai est terminé, donc maintenant effectivement la situation va mieux. Non, la situation ne va pas mieux. Parce que il va se passer quoi ? Ben, il va se passer que l'OQTF, en tout cas, si moi policier, je mets la main sur votre mari et puis qui me dit mais bon, je suis en situation irrégulière, j'avais une OQTF, mais elle est terminée maintenant. Les un an sont passés. La police va demander aux autorités préfectorales. Enfin, va exposer la situation et puis le préfet va faire quoi ? Il va simplement reprendre une nouvelle mesure qu'il va notifier, c'est envoyé au commissariat par mail en disant il faut qu'il quitte le territoire. Il faut bien comprendre que lorsqu'au bout d'un an l'OQTF est terminé, ça ne veut pas dire que la France va vous régulariser ou accepte l'intéressé. Et je vous dis sincèrement, ce qui est embêtant dans votre situation, c'est le fait d'être sur le territoire français sans y avoir été autorisé, et ce à aucun moment, donc sans visa. C'est la situation la plus compliquée à régulariser.
Voilà. Lily, ce que Maître Serran peut vous répondre. Alors, qui on a ? On a Mohamed. Mohamed, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, Mohamed.
Ça va, Maître Serran ?
Ça va, Mohamed, alhamdoulilah, et vous-même ?
Alhamdoulilah, Allahumma lak alhamdi ya Rabbi. Merci à toi, merci à toute l'équipe derrière toi. Je t'appelle juste par rapport, Maître. J'ai acheté une société avec un fonds de commerce. C'est comme j'ai acheté la société, ça suit le fonds de commerce.
Mm-hmm.
Et le bail, il va finir bientôt. Et j'ai envie de savoir comment ça va se passer. Il va finir normalement le 30 novembre.
Mais vous l'avez acheté quand, ce fonds de commerce ?
J'ai acheté il y a 2 ans.
D'accord. Alors, j'allais dire avant l'achat, à titre de précaution, vous êtes quand même rapproché du propriétaire pour dire, bon, moi je vais acheter et puis...
Le propriétaire, il sait que j'ai acheté.
Non, ça d'accord, forcément. Mais est-ce que vous avez discuté éventuellement, parce que acheter, alors je sais pas combien vous avez payé, mais ça reste quand même un investissement. Mais acheter quelque chose et se dire il y a peut-être un risque que ce ne soit pas renouvelé, ça peut être embêtant. Est-ce que la question a été posée au moment de formaliser cet achat ?
Moi, elle m'a dit parce que c'était une agence, je lui ai demandé. Là, c'est comme c'est bientôt, normalement, il va finir le bail. 10 fois, il encaisse le loyer, 10 fois, il encaisse pas parce que c'était par prélèvement.
D'accord. Alors, des fois, il encaisse et des fois, il encaisse pas, c'est-à-dire ?
Ouais. Là, par exemple, ce mois-là, il n'a pas encaissé. C'est comme le bail, il va finir le 30 novembre.
D'accord. Mais vous avez quoi, l'impression que ce serait lié à la fin du bail ? C'est ça qui vous inquiète ?
Peut-être il va pas me renouveler. C'est comme j'ai acheté la société,
il pourrait. Mais évidemment ne pas vous renouveler. Donc il y a une procédure qui est très particulière pour prévenir l'intéressé et lui dire que ça arrive à expiration et que qu'on refuse de procéder à un renouvellement. On a ce qui s'appelle tout de même une indemnité d'éviction, c'est-à-dire que si je ne veux pas renouveler ce qui est mon droit, encore une fois, si on arrive à échéance, vous avez le droit évidemment d'être indemnisé si pour une raison lambda l'intéressé dit moi je suis encore une fois je veux pas renouveler pour telle ou telle raison, mais il y a quand même une indemnité d'éviction, c'est-à-dire qu'on vous dit pas bah non au revoir et puis retirez vos affaires et quitter les lieux. Mais vous savez, c'est intéressant et c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on achète un bien de cette nature et que on se dit le bail va expirer, vous savez quoi, c'est un bail commercial.
C'est un bail commercial.
Ouais, bon, alors quand on achète et on se dit bon, il y a un bail qui va expirer dans 2 ans. On fait en sorte quand même, entre guillemets, de s'assurer que le renouvellement ne posera pas de difficultés. Vous voyez, donc c'est quand même important, puisqu'encore une fois, c'est un investissement de votre part. Et puis l'indemnité d'éviction, eh ben il faut, ça se passe jamais comme ça en disant écoutez, je vous fais un gros chèque et puis on en reste là. Il y a toujours des discussions et parfois ça se termine devant un tribunal de commerce.
Ouais.
Mais là, vous l'avez pas, vous êtes pas rapproché des intéressés déjà. N'attendez pas le dernier jour, quoi.
Non. Normalement, il y a le contact qui l'avait rappelé hier pour encaisser son argent.
D'accord, mais indépendamment de cette histoire de chèque, parce que vous me dites, il faisait déjà ça, des fois il encaisse, des fois il encaisse pas, mais bon, il finit quand même par les encaisser. Mais le plus important, ça va être le renouvellement du bail. Est-ce que ça vous l'avez évoqué?
Si, je parlais avec lui la dernière fois, il m'a dit c'est pas encore fini. J'attends normalement, j'étais chez le comptable hier. Le comptable, il m'a dit il faut rien faire maintenant, il faut attendre jusqu'à qu'il aura 6 mois, et là on va envoyer une lettre.
Oui, alors ça c'est... Oui, non mais ça c'est vrai. Mais selon moi, ça... Vous savez, c'est juste histoire de prendre un peu la température. Parce que là, vous avez l'air inquiet quand même. Vous avez l'impression que, entre guillemets, c'est plié, qui va pas renouveler.
Qui va arrêter. Même le comptable m'a dit s'il va pas vous renouveler le bail, il va vous payer. Parce que moi, la boutique, je l'ai refait à neuf.
Bah voilà.
J'ai tout changé dedans. C'est ça qui m'inquiète.
Non, mais monsieur, mais on est d'accord. C'est pour ça que je vous disais que quand on reprend une affaire et qu'on a un bail qui va expirer dans ce délai qui reste assez court quand même, puisqu'on est dans ce qui s'appelle les 3-6-9. Normalement, voilà, on a, comme dirait l'autre, 9 ans de tranquillité. Mais si vous achetez, vous investissez, au bout de 2 ans, vous dites peut-être qu'il va pas renouveler. C'est pour ça que je disais, quand c'est comme ça, la prudence fait que il vaut mieux se renseigner préalablement. Mais bien sûr, qui pourrait, encore une fois, dire, bah non, moi je veux pas. Et alors après, il y a encore une fois cette indemnité. Mais travaux ou pas travaux, il pourrait décider de pas renouveler, bien sûr.
Ben oui. Ouais, bah, je vais essayer de prendre votre numéro et après je vous rappelle.
Bon, voyez ce qu'il en est. Peut-être que vous inquiétez aussi pour rien. Il y a aussi cet aspect-là. Mais ouais. Voilà, parce que c'est pas parce qu'un propriétaire n'encaisse pas en temps et en heure son loyer qui se dit de toute manière je vais pas renouveler. Mais bon, voyez après ce qui se dit.
Alors, vous pouvez Mohamed noter le numéro de Maître Serran, et c'est valable pour tout le monde. Maître Serran, on vous écoute.
Alors, joignable au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Parfait, merci Mohamed pour d'autres questions. Alors, si vous voulez parler à Maître Serran ce matin, après une courte pause, vous serez là au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et toutes vos questions juridiques avec et à Maître Serrade au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Fatima.
C'est Fatima qui a une question pour vous, Maître Serrade. Fatima, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Fatima.
Alors, c'est Fatima de Montpellier. Mm-hmm. Du coup, je vous appelle aujourd'hui pour poser une question concernant mon frère.
D'accord, alors
on vous écoute.
Merci. Du coup, il est rentré ici en France 2011. Il est venu avec visa Schengen, mais il est rentré de avec l'Espagne. De l'Espagne, c'est tout.
D'accord.
Du coup, moi, je suis allée le chercher parce que j'habite ici. Il est resté chez moi. Et entre-temps, il cherchait le travail et tout. Et en ce moment, comme il est resté en situation irrégulière après le visa qui est fini, il s'est marié le mois de mai 2021. Après, ils ont posé nos dossiers normalement à la préfecture et tout, et ça a été refusé par la préfecture.
L'épouse de monsieur est de quelle nationalité ?
Française.
D'accord. Et le motif du refus ?
Parce que, soi-disant sur le dossier, il n'y avait pas justificatif de rentrer de l'Espagne vers la France valable. Un tampon de la douane ou quelque chose comme ça.
Non, mais enfin, de l'Espagne vers la France,
C'est l'espace Schengen,
ouais,
non ?
C'est ce que j'allais vous dire. Je ne sais pas qui vous a répondu ça. C'est-à-dire le temps des barrières et des coups de tampon sur les passeports, ça n'existe plus. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait à minima, c'est peut-être simplement essayer de justifier, et souvent nos clients nous présentent ça, c'est un billet de train pour dire j'étais en Espagne et puis je suis arrivé sur le territoire français. Mais si on vous dit il faut un coup de tampon de la douane française, évidemment que ça c'est... J'ai même des doutes sur cet argument.
Et vous... Je m'excuse pour d'avoir coupé, mais ils ont dit ça, et c'était le cas. Comme moi, je suis allé le chercher, et j'habite sur Montpellier, j'avais fait une application sur l'honneur, et j'avais un justificatif, c'est le relevé de compte. C'était marqué, en fait, les payages qu'on a fait, l'aéroport sur place.
Bon.
C'est bien éclairé net sur le relevé de compte, mais ils ont refusé le dossier. Du coup, ils étaient obligés de passer par un avocat.
Ouais.
Et l'avocat, il a posé le dossier et tout. Il a reçu le refus avec un QTF.
Alors, l'OQTF, en principe, c'est ça que vous avez contesté. C'est-à-dire que il a reçu l'OQTF, donc l'obligation de quitter le territoire. Vous avez contesté devant le tribunal. Et puis, le tribunal donne raison à la préfecture.
Ils ont reçu la réponse après que l'avocat il a posé le dossier, en fait. Avec tous les justificatifs qu'on avait.
D'accord, juste pour essayer de comprendre, on va remettre tout ça dans l'ordre. Votre frère a bien reçu un document où le préfet dit « Monsieur, faut partir ».
Non, le préfet, il a reçu que c'était refusé le dossier. Du coup, ils sont passés par un avocat pour contester le...
J'entends bien, madame, on va essayer, d'accord, sauf si c'est un droit que je ne connais pas, mais si vous avez été devant un tribunal, votre frère a bien contesté un document qui s'appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ?
Non, le QTF, il l'a reçu après qu'il a contesté la réponse de la préfecture. En fait, il l'a reçu après que l'avocat il a posé le dossier, le QTF.
Mais quand vous me dites l'avocat a posé le dossier, donc on est d'accord, l'avocat pose le dossier à la préfecture pour dire « Voici le dossier de mon client, il faut le régulariser ».
Oui.
D'accord. Ensuite, la préfecture a dit « Bah non, monsieur, il faut quitter le territoire ».
Voilà.
Voilà, oui, on est d'accord. Donc ça, c'est l'OQTF. Voilà. Est-ce que l'OQTF a été contesté devant le tribunal ?
Pas encore. Ah, et bah, là, d'accord. Ils sont revenus vers l'avocat parce qu'ils ont dit qu'on n'a pas le droit de contester jusqu'à le mois de septembre. Parce qu'ils demandent un an de vie commun. Et comme il était marié que le mois de mai...
Vous avez bien compris que... j'entends bien, mais vous avez bien compris que si... Enfin, il est peu probable que mon confrère vous ait répondu ça, mais il va pas attendre un an pour contester. Il y a un délai. Alors, quand la préfecture est généreuse, c'est 30 jours. Et parfois, dans des situations particulières, c'est 48 heures. Mais là, a priori, c'est peut-être 30 jours qu'ils l'ont accordé. 30 jours, c'est 30 jours. C'est-à-dire que s'il fait ça le 31e jour, le recours ne sera pas valable.
D'accord.
Sauf si stratégiquement... Le confrère lui a dit, écoutez, vous ne contestez pas, vous attendez un an de mariage et vous redéposez un dossier.
Ah oui, c'était l'avocat qui leur a dit comme ça. Ils ont allé voir un autre avocat, c'était pareil. Ils ont dit qu'on va contester qu'après
la
durée qu'ils ont donnée, quoi.
C'est une stratégie comme une autre, mais la difficulté, c'est que je suis le préfet, je demande à votre frère de partir. Si vous ne contestez pas dans les délais qui lui sont impartis, donc dans les 30 jours en règle générale, moi, préfet, je considère que votre frère accepte ma décision, et donc il accepte de partir. Ouais, le danger, c'est ça.
Oui.
Donc, même si demain, vous redéposez un nouveau dossier, le préfet peut dire, vous êtes gentil, je vous ai déjà demandé de partir, et vous n'avez pas contesté, c'est-à-dire, vous avez accepté ma décision. Pourquoi est-ce que vous êtes amené à changer d'avis maintenant? Donc, ça peut poser difficulté.
Ah oui.
Et c'est pour ça que les deux avocats vous répondent la même chose. Et heureusement, d'ailleurs.
D'accord. Et en temps normal, normalement, le dossier n'est pas refusé parce qu'il est rentré avec un visa. Ça, qu'on comprend
non,
pas.
Non, madame, attention. C'est-à-dire que si vous avez bien écouté, je dis que rentrer sans visa, c'est injouable pour être régularisé. Oui. Ça ne veut pas dire que rentrer avec un visa, la France va vous sourire et vous dire vous êtes les bienvenus.
D'accord.
Voilà, c'est vous avez bien compris quand même qu'on est dans depuis quelques années dans une situation un peu particulière où la France a durci ses lois et les préfets sont de plus en plus compliqués. Donc ça veut pas dire vous avez un visa, déposez un dossier, vous allez avoir un titre de séjour, hein, ça veut pas dire ça du tout. C'est très compliqué. Ça reste plus facile à régulariser que quelqu'un qui a pas de visa, mais il y a pas d'automaticité.
Une émission spéciale hein, sur ces conditions d'entrée sur le territoire français. Merci pour votre question. Alors, on a Farid qui est avec nous. Farid, bienvenue.
Bienvenue. Merci, Philippe.
Avec plaisir. Maître Serin écoute votre question.
Je suis ravi de vous avoir en live, vous et Maître Serin.
Bonjour, Farid.
En fait, bonjour. Justement, je voulais répliquer par rapport à ça. En fait, moi, je suis un exemple. Je sais pas. Je suis pas le seul. Je suis sûr et certain. Je suis rentré sur le sol français sans visa. Et je me suis marié avec une Algérienne.
En plus,
la carte
est en plus, c'est plus facile avec une Française. Et c'est, pardon. Donc vous êtes marié avec une Algérienne et
la carte de séjour.
Ouais. Donc normalement, c'est encore plus compliqué.
Ouais, on a vécu, on est toujours ensemble, on a 20 ans de mariage. Et
mais ça remonte à quelle année, monsieur, votre régularisation?
Ça remonte à 2013.
C'est pas si vieux que ça.
Non, là, ouais. Pour le coup, ouais,
c'est régularisé en 2013. Ouais,
c'est pas si vieux que ça.
On m'a posé la question, mais au bout de 10 ans, en fait, sur le sol français, j'étais sans papier. Je voulais pas poser une demande de visa. Vu la situation au début, ma femme, elle travaillait pas. Après, bon, on a posé un dossier correct. Ma femme a travaillé. Elle avait un CDI depuis quelques temps, etc. Voilà. Pour vous rajouter encore plus, j'avais même un casier judiciaire, pour vous dire. Et je vous mens pas.
Non, mais monsieur, je m'autorise pas à dire que vous mentez. Je dis simplement, moi, à mon niveau... Ouais. À mon niveau, quand quelqu'un vient me dire j'ai un casier judiciaire, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire j'ai pas forcément envie d'inviter quelqu'un qui viendrait me braquer. Donc si je suis la France, quelqu'un qui vient et qui me dit j'ai un casier judiciaire, j'ai pas forcément envie de lui donner un titre de séjour. Non, mais c'est votre situation et je vous crois. Il y a aucune raison que vous appeliez juste pour raconter n'importe quoi. Mais sincèrement, quelqu'un qui vient en France sans visa, quelqu'un qui vient en France et pour des raisons lambda a un casier judiciaire et qui réussit à être régularisé, je sais pas si vous travaillez ou pas, moi je suis prêt à vous prendre. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est juste pour vous dire que votre situation.
Farid, vous êtes arrivé en quelle année? Avant 2000.
Je suis arrivé en 2002.
En 2002, ouais, donc
janvier 2002.
D'accord, 20 ans, ça fait pile 20 ans.
Ouais.
D'accord,
ouais. Mais
non, je suis arrivé en janvier 2002, j'étais régularisé en 2013. Voilà quoi, je suis resté à peu près 10 ans.
Mais régularisé par mariage.
J'ai fait une. Ouais, vie de famille, etc.
Oui, vie privée, enfin, familiale.
J'étais marié en 2004. En 2004, j'étais marié.
Écoutez, en tout cas, moi, j'ai pas, sincèrement, ouais, c'est pour ça que je veux pas donner de faux espoirs aux personnes qui viennent sans visa.
Non, après, je le comprends. Après, je le comprends. Après, moi, ma procédure, c'était juste pour non plus l'assombrir pour des gens qui veulent, dans mon cas. Par exemple, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, il s'arrête de vous dire que voilà, ça, lui, ça a été son cas et il y est arrivé.
Bon. Ah non, mais c'est tombé. Alors, il y a ce qui s'appelle.
Regardez le poids.
C'est dire, c'est possible.
Voilà. Vous savez, la difficulté, c'est quand on est derrière un bureau et dire à des clients, écoutez, c'est possible, oui, sauf que le type, il vit au quotidien comme un fantôme et puis il peut pas travailler quand vous avez une femme, quand vous avez des enfants. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on, à ce qu'on leur dit quand on est, quand on est avocat et pas leur faire miroiter tout et n'importe quoi, sincèrement.
Et vous, Farid, vous avez commencé à travailler en quelle année?
Moi, dès qu'ils m'ont donné mes papiers, j'ai travaillé direct.
En 2013.
J'ai eu le permis poids lourd. Oui, en 2013, je commençais à travailler déjà les travaux préparateurs de commandes, etc., des trucs lambda. Après, j'ai fait une formation, j'ai eu mon permis poids lourd, etc.
Alors, il existe, mais alors, honnêtement, c'est tellement rare. Le préfet, on en a déjà parlé, a ce qui s'appelle un pouvoir discrétionnaire. Discrétionnaire, c'est dire il y a zéro condition réunie par monsieur ou madame X, et puis je vais quand même, moi, préfet, décider de les régulariser. Ça arrive de temps en temps, mais honnêtement, enfin voilà, il faut pas tabler là-dessus pour dire à chaque fois à un client, vous inquiétez pas, votre dossier me semble très compliqué, mais pouvoir discrétionnaire du préfet, c'est utilisé avec parcimonie.
C'est tout à fait d'accord. Ouais,
et bon escient.
Et bon escient.
Ouais.
Bon, en tout cas, Farid, vous y êtes arrivé, vous. Ouais, c'est ça qui est important.
Non, c'est important, mais bien sûr. Et c'est tant mieux.
Est-ce que vous aviez un avocat?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Ouais, enfin, si vous appelez pour dire que les avocats ne servent à rien, on va raccrocher direct. C'est pas ce que vous faites.
Non, non, au contraire.
Ouais, Farid, il témoigne de tout ce qu'il a fait. Le gars improbable, il est arrivé.
Mais encore une fois, c'est tant mieux qu'il y ait des histoires comme ça, évidemment. Vous savez, le droit des étrangers, c'est toujours sombre et c'est noir comme situation. C'est très compliqué. Donc, quand on a de temps en temps, une lumière comme ça et qui peut donner de l'espoir aux autres, évidemment que c'est tant mieux.
Ouais. Non, mais moi, à l'époque, je me suis renseigné, association, etc., etc. On m'a dit, en gros, vu votre situation, laissez tomber. À l'époque, on m'a attrapé, je conduisais sans permis, etc. Bref, on m'a dit, laissez tomber. Bah, j'ai patienté. Jusqu'à m'en monter un dossier, pareil. Ma femme a travaillé depuis 5 ans, elle était en CDI. Moi, je me suis resté tranquille. On a dit, vas-y, je vais tenter le coup. Si ça passe pas, bah, tant pis. Hein. J'ai pas pris d'avocat, en tout cas.
Farid, merci de votre témoignage.
Merci, Farid.
Qui va à l'encontre de tout ce que Maître Serra nous
dit. Eh bah oui.
Voilà.
Bah
voilà,
écoutez.
Voilà.
Si ça peut encore une fois donner de l'espoir aux autres, pourquoi pas.
Bon, amitié, Farid. Au plaisir. Non, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Tout a une fin, comme on dit, Maître Serran, mais on va vous retrouver vendredi prochain.
Avec plaisir.
Vous donnez votre numéro avant de partir.
Alors, je suis joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà. Et quittons-nous avec un mot gentil, je crois que vos auditeurs en ont besoin.
Ah bon?
Ouais.
Bah, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire de gentil.
De gentil, ça veut dire.
Ouais, mais comme ça, spontanément.
Vous n'arrivez pas.
Vous auriez dû me prévenir avant l'émission et j'aurais préparé quelque chose. Mais gentil, spontanément, non, je connais pas, non.
Bon, revenez vendredi prochain, ça sera suffisant,
avec plaisir. Maître Serran.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.